diffusée tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h. Les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton avec Adrien Roch à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Jeanne-Marie Roux, Avril Ventura et Adèle Van Rett. Adèle, qui dans son journal, le journal des nouveaux chemins, tout à l'heure à 10h50, reviendra avec Éric Méchoulan sur un western. Suite et milieu, ce mercredi d'une semaine sur le bonheur dans les nouveaux chemins de la connaissance, après Épicure et Sénèque, avant Spinoza, c'est-à-dire Robert Misrahi, et Kant, c'est-à-dire Michael Fossel, c'est de Gide qu'il sera question aujourd'hui, André Gide, dont les nouveaux chemins n'ont jusqu'ici jamais parlé, et pour cause, je ne l'avais jamais lu. Jamais ou presque, en tout cas mieux vaut tard que jamais, d'autant que les nourritures terrestres dont nous allons parler ce matin est un poème philosophique de toute beauté et que notre invité Pierre Masson, qui est professeur émérite de littérature française à l'Université de Nantes, a notamment dirigé la nouvelle édition de la Pléiade de Gide. Tout choix est effrayant quand on y songe. Effrayante une liberté qui ne guide plus un devoir. C'est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu, où chacun fait sa découverte. Et, remarque-le bien, on ne l'a fait que pour soi. De sorte que la plus incertaine trace dans la plus ignorée Afrique est moins douteuse encore. Des bocages ombreux nous attirent, des mirages de sources pas encore taries. Mais plutôt les sources seront où les feront couler nos désirs, car le pays n'existe qu'à mesure que le forme notre approche et le paysage alentour, peu à peu, devant notre marche, se dispose. Et nous ne voyons pas au bout de l'horizon, et même près de nous, ce n'est qu'une successive et modifiable apparence. Mais pourquoi des comparaisons dans une matière si grave? Nous croyons tous devoir découvrir Dieu. Nous ne savons, hélas, en attendant de le trouver, où nous devons adresser nos prières. Puis on se dit enfin qu'il est partout, n'importe où, l'introuvable, et on s'agenouille au hasard. Et tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main. Bonjour Pierre Masson.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture et sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir pour parler de bonheur, c'est-à-dire en l'occurrence des nourritures terrestres d'André Gide. On va partir de la dernière phrase du texte que j'ai lu. Tu seras pareil, Nathanaël, à qui suivrait pour se guider une lumière que lui-même tiendrait en sa main. Première question liminaire que le lecteur de bonne foi peut se poser, qui est ce Nathanaël? Et puis, deuxième, donc, qui est le destinataire inconnu des nourritures terrestres? Et deuxième question, que signifie ce texte dans lequel un homme est invité à être lui-même son propre guide? Pierre Masson.
Alors pour Nathanaël, bien sûr, bon, ça renvoie à l'évangile. Il y a une parabole où Nathanaël apparaît, mais je ne pense pas qu'il faille aller chercher le texte. Je crois que ce qui est important, c'est peut-être d'abord les consonances. Gide s'en tient à la musique du nom. Et puis surtout au fait que ça lui permet d'établir ce discours sur la montagne comme un dialogue. Ce qui caractérise Gide, c'est perpétuellement cette position de dialoguer en fait avec lui-même, puisqu'au fond, il est en permanence hésitant, on peut dire, entre deux postulations de lui-même, de son cerveau, comme il dira.
C'est-à-dire, deux postulations, quelles sont ces deux postulations?
Alors, il a mis du temps à les préciser, mais par exemple...
On les sent déjà à l'œuvre. Hein. On est en 1897, Gide a 28 ans quand il écrit ça, hein. Donc il est tout jeune, et il met déjà en œuvre des choses qu'il formalisera plus tard.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, bon, les nourritures terrestres, c'est une entreprise de libération. Mais dans le même temps où il se libère, Gide continue de considérer que la contrainte était nécessaire pour faire le prix de cette libération. Vous savez, c'est la fameuse citation « L'art n'est de contrainte, vie de lutte, meurt de liberté ». Bon, chez lui, c'est une alternance permanente.
Attendez, vous l'avez dit vite, mais c'est important, tout le monde ne la connaît pas. « L'art n'est de contrainte,
vie de lutte, meurt de liberté ».
Magnifique, allez-y.
Mais bon, là, ça vaut pour l'art, ça vaut aussi pour l'homme. Et par exemple, dans « Si le grain ne meurt », il évoque la parole maternelle qui pour lui a considérablement compté, où il évoque sa petite enfance. Il s'agissait de savoir si on allait l'autoriser à lire librement certains ouvrages. Et sa mère avait dit que, comme le peuple hébreu, avant de vivre sous la grâce, il était bon d'avoir vécu sous la loi. Et pour Gide, cette idée d'une contrainte initiale reste vraiment, jusque tout au long de sa vie, quelque chose d'essentiel.
La contrainte, en l'occurrence, c'est la contrainte du style, c'est la contrainte des mots, c'est la contrainte d'un langage, qui d'une forme tout à fait classique d'ailleurs.
La recherche d'une règle qui obtienne de nous le meilleur. Donc ça peut être le style, ça peut être une ascèse morale, c'est toute forme d'exigence qui nous tire vers le haut.
Est-ce qu'on peut faire des nourritures terrestres, on va beaucoup le lire, on va l'entendre hein, beaucoup dans cette émission avec vous, est-ce qu'on peut faire des nourritures terrestres, la métaphore, paradoxalement, hein, alors que le narrateur invite son destinataire à répudier tous les livres à un moment, est-ce qu'on peut quand même en faire la métaphore d'une forme de quête littéraire, de la recherche d'un style, d'un livre, d'une certaine façon, ou peut-être du livre ?
Oui, c'est-à-dire que à ce moment-là, il faut revenir un tout petit peu en arrière, partir de l'idée que Gide, c'est un disciple de Mallarmé, et qu'effectivement, à l'origine de son entreprise d'écriture, quand il écrit les Cahiers d'André Walter, quelques années avant, ce qu'il ambitionne, c'est d'écrire le livre. Et même, il va presque plus loin que Mallarmé, puisqu'il rêve du livre qui le sauverait à la fois aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu et aux yeux de sa cousine dont il brigue la main. Donc il y a vraiment une espèce d'ambition totale, insensée évidemment, qui va échouer, mais qui fait que par la suite de tout livre, il va faire quand même le lieu de cette quête, de cette interrogation, sachant simplement que désormais, il connaît les limites de cette ambition et que pour marquer au fond ce désir d'un dépassement, eh bien, il va indiquer lui-même les limites de son propre ouvrage. Le livre devient critique de lui-même et par là même indique le livre idéal qu'il aurait voulu être.
C'est l'un des paradoxes de ce livre, hein, l'une des contradictions de ce livre, Les nourritures terrestres, qui en est plein. Voilà un livre qui a marqué des générations entières, mais qui pourtant, d'ailleurs, à sa publication, a été ignoré. L'anecdote veut qu'on en ait vendu 500 en 10 ans.
Voilà, même un peu plus, oui, une vingtaine d'années, quasiment.
Voilà, bon. Par ailleurs, c'est un livre d'éducation, en un sens. C'est une éducation assez rousseauiste, d'ailleurs, d'une certaine manière. Hein. Il y a une invitation, véritablement, à renouer avec une nature perdue, trahie, corrompue par la civilisation et ses civilités. Mais c'est un livre d'éducation qui, justement, prône la désinstruction. Autre paradoxe, on va rester un peu dessus d'ailleurs, c'est un livre qui exalte la jouissance, la volupté. On ne compte pas les apologies du désir dans les nourritures terrestres. Et pourtant, c'est un désir qui prend la forme paradoxale en apparence d'un ascétisme, d'une certaine forme de dénuement, Pierre Masson.
Oui, alors je crois que là, vous pointez l'essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, là encore, je fais un petit retour en arrière. Gide part d'un premier état de sa formation où il est soumis à plusieurs exigences de transcendance. Transcendance religieuse par son éducation protestante, transcendance esthétique, j'évoquais Mallarmé. Et donc, dans tous les cas, il s'agit de rechercher un absolu qui se situe au-delà du réel. Le symbolisme, en plus, avec Schopenhauer, l'encourage dans le même sens. Donc, ce qui se passe au moment des nourritures terrestres, c'est qu'il va, au fond, opérer une espèce de révolution copernicienne, pourrait-on dire, c'est-à-dire faire en quelque sorte que cette transcendance habite le monde et lui-même. La transcendance va se situer non plus dans l'aspiration à un dépassement, mais dans la distance entre lui et les choses. Si bien que le bonheur existe véritablement dans l'appétence, dans le désir qu'il a envers ces choses, beaucoup plus qu'à l'égard de leur possession. Donc c'est là que j'en arrive enfin à la réponse à votre question. L'important pour Gide n'est pas de posséder que ce soit le fruit, que ce soit l'objet bon, qu'il évoque dans les nourritures terrestres. Ce ne sont pas les nourritures en elles-mêmes, c'est le désir qui va le porter vers ces choses et qui va en lui-même éveiller le sentiment d'une distance et donc d'une certaine forme, le mot transcendant, c'est peut-être pas ce qu'il conviendrait, mais que j'exprimais mieux par une autre citation, quand Gide décrit, dit dans les nourritures terrestres, que l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée. Autrement dit, les choses sont indispensables, on revient aux nourritures, mais ce qui compte, c'est l'effet qu'elles produisent en moi dans la mesure où elles m'exaltent. Et de cette exaltation viendra effectivement une espèce de dépassement dont et le monde et moi-même profiteront.
Mais ce dépassement se fait quand même par une inscription, quand même, dans le monde. Hein. La beauté est dans l'œil de celui qui contemple, du point de vue de Gide, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il s'agit de contempler quelque chose qu'on éprouve.
Oui, tout à fait. Effectivement, on ne peut pas se passer de ce monde. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'on a atteint son but en le possédant. C'est pour ça que, justement, les nourritures terrestres, Gide pourra d'ailleurs reprendre l'argument 20 ans plus tard à l'occasion de sa période communiste, on peut les considérer paradoxalement comme un hymne au dénuement dans la mesure où il ne s'agit pas de posséder les choses. Et une bonne partie de la pédagogie du bonheur que Gide va mettre en place à partir des nourritures terrestres consiste justement à dénoncer ceux qui s'imaginent que le bonheur se possède. Il y a par exemple, si vous permettez, une pièce qui est peu connue de Gide, mais qui est une véritable parabole sur ce sujet, c'est « Le roi Candaule ». Gide n'a pas inventé l'histoire de Candaule, hein, il la reprend à l'Antiquité, mais il insiste sur cet aspect. Le roi Candaule est un homme heureux, riche, entouré de courtisans, qui passent leur temps à être comme le miroir de son bonheur. Et lui-même, d'une certaine façon, enfin, on dirait aujourd'hui familièrement, n'en peut plus d'être heureux et voudrait en quelque sorte que tout le monde autour de lui jouisse de son bonheur, dont la plus belle représentation est sa femme, Nicia, qui cherche, elle, à rester voilée, mais que Candaule voudrait dévoiler devant les courtisans. Et un jour, au cours d'un repas, il va trouver, enfin, dans un poisson, un anneau mystérieux sur lequel est inscrit « Eutychian crypto, je cache le bonheur ». Et Candaule ne va pas comprendre la leçon qui consisterait justement à cacher son bonheur pour le préserver. Au contraire, il va faire de cet anneau le moyen, en le donnant à un ami, Gigès, eh bien, de profiter à son tour de son bonheur, d'exhiber Nicia nue devant Gigès et finalement, livrant son bonheur en pâture à son entourage, finalement le perdre complètement.
Délicieuse est la brume au soleil levant sur les plaines, et délicieux le soleil, délicieuse à nos pieds nus la terre humide et le sable mouillé par la mer. Délicieuse à nous baigner fut l'eau des sources, à baiser les inconnues lèvres que mes lèvres touchèrent dans l'ombre. Mais des fruits, Nathanaël, que dirais-je ? Oh, que tu ne les aies pas connus, Nathanaël, c'est bien là ce qui me désespère. Leur pulpe était délicate et juteuse, savoureuse comme la chair qui saigne, rouge comme le sang qui sort d'une blessure. Ceux-ci ne réclamaient, Nathanaël, aucune soif particulière, on les servait dans des corbeilles d'or, leur goût écœurait tout d'abord, étant d'une fadeur incomparable. Il n'évoquait celui d'aucun fruit de nos terres, il rappelait le goût des goyaves trop mûres, et la chair en semblait passée. Elle laissait, après, l'âpreté dans la bouche. On ne la guérissait qu'en remangeant un fruit nouveau. À peine bientôt, si seulement durait leur jouissance, l'instant d'en savourer le suc. Et cet instant en paraissait tant plus aimable que la fadeur, après, devenait plus nauséabonde. Pierre Masson, quand on lit des textes comme ça dans les nourritures terrestres, moi, un texte comme celui-là me rappelle les antennes des escargots, vous savez, quand les escargots se rencontrent. Oui. Il y a une scène comme ça dans Microcosmos, magnifique, où les escargots se rencontrent et avant de s'enlacer, ils s'effleurent un peu comme deux amoureux qui se regardent mais qui ne veulent pas montrer à l'autre qu'ils se regardent, qui donc détournent la tête quand ils s'aperçoivent qu'ils sont regardés par l'autre. En somme, les antennes qui se rétractent à l'instant où elles s'effleurent. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand même dans un texte comme celui-là où les fruits sont délicieux, leur pulpe est délicate et juteuse, savoureuse comme la chair qui saigne, rouge comme le sang qui sort d'une blessure. On retrouve cette image dans Nos de Camus, devant les jardins Boboli, où il parle de ces kakis dorés dont la chair éclate, laisse passer un sirop épais. Mais à la puissance qui est à l'œuvre dans Nos, où il s'agit véritablement de tendre la main, d'arracher le kaki et de mordre dedans, ici, On a le sentiment que le narrateur met en garde contre la tentation de goûter le fruit et de s'y perdre, et qu'au fond, le fruit n'est délicieux que dans cet intervalle qui nous sépare de sa possession.
Oui, effectivement, vous avez raison, mais il y a peut-être deux choses. Il y a, je crois, à toute façon, une espèce de volupté d'effleurer les choses, une sorte de jeu avec les sensations qui vient peut-être, il ne faut pas l'oublier, de l'époque à laquelle j'y décris, c'est-à-dire que dans la littérature, au fond, le corps en général et le corps désirant, le corps sensible était assez peu représenté. Au début de l'immoraliste, par exemple, Ménal qui dit à ses amis « je vais beaucoup vous parler de mon corps ». Et aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Il y a un siècle, ça ne l'était pas du tout. Donc, il y a quand même cette idée que Gide, en reprenant contact avec les éléments naturels, on va dire, eh bien, anticipe sur un mouvement...
On dirait qu'il redoute le contact.
Oui, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est sa manière à lui de d'en profiter au mieux, de butiner un peu comme l'abeille. Là, c'est... peut-être un peu difficile de préciser. Alors, ceci dit, le redouter le contact, c'est vrai que ça nous ramène un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure à propos de la possession, c'est-à-dire que chaque chose en elle-même ne suffit pas. Donc, il ne faut pas s'attarder sur une fleur en particulier, il faut vite la quitter pour passer à une autre. Et ce qui vaut pour les objets vaut aussi pour les êtres. Et d'une certaine façon, enfin, je fais un saut peut-être un petit peu rapide, mais vous me faites penser à la fin des faux monnayeurs, par cette phrase très étrange où Édouard, ayant enfin, au terme de 500 pages, réussi à obtenir le but de son cœur, c'est-à-dire l'union avec Olivier, termine disant « j'ai rendez-vous dans la famille de Bernard, je suis bien curieux de connaître Kaloub ». Kaloub, c'est le petit dernier qu'il n'a pas encore rencontré. Bon, autrement dit, il y a toujours cette idée un petit peu d'un papillonnage, si je puis dire, qui est à la fois une partie de son éthos, je crois, de son plaisir de vivre, et qui est aussi une forme d'hygiène à ses yeux. Ne t'attarde pas, Nathanaël.
Rappelons que l'Édouard dont vous parlez, si j'ai bonne mémoire, s'appelle Profite en Dieu.
Non, excusez-moi. Édouard n'a pas de nom.
Mais alors, qui est Profite en Dieu?
Alors, Profite en Dieu, alors c'est Bernard Profite en Dieu.
Autant pour moi.
Oui, mais il y a beaucoup de monde dans les faux monnayeurs. Profite en Dieu, c'est un juge qui n'est pas le père de Bernard. Bernard, ça va être l'autre héros. Il y a deux héros dans ce roman, Gide ayant voulu, puisque vous me lancez sur les faux monnayeurs, tant pis pour vous, écrire un roman à ce qu'il appelait à double foyer. Autrement dit, qui est vu par deux personnages très différents qui ont chacun leur clarté, leur regard propre sur l'ensemble de l'histoire. Donc il y a Bernard qui est un adolescent, il a 17 ans à peu près, qui un beau matin décide de quitter le domicile familial parce que en fouillant dans le courrier intime de sa mère, il a trouvé une lettre qui lui apprend qu'il n'est pas le fils de son père. Et du même coup, découvrant qu'il est un bâtard, il s'afflige à lui-même cette attitude curieuse. Enfin, il s'éjecte lui-même du domicile au lieu de revendiquer cette bâtardise. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il s'en punit tout en disant en même temps que c'est pour lui une liberté merveilleuse.
Il y a une scène comme ça au début des Faux Monnayeurs, je crois, où il n'a plus d'argent et crânement, il laisse titre de pourboire les derniers sous qu'il lui reste dans la poche.
Exactement, oui. C'est-à-dire que Bernard, c'est le type de celui qui voudrait être l'aventurier. Tous sont faux monnayeurs dans le roman, hein. Le titre est explicite. Ça veut dire que dans ce roman, comme d'ailleurs dans presque tous les livres de Gide, tout le monde joue un rôle. Et il n'y a que l'auteur qui sache que ses personnages jouent un rôle et qui, lui, peut se permettre d'être sincère sur leur dos. Donc, dans les faux monnayeurs, si le père Profite en Dieu est un faux parangon de vertu, Bernard, lui, se prend pour un hors-la-loi qu'il n'est pas. Et donc, tout ce qu'il va réussir à faire, c'est chipper la valise d'Edouard, s'emparer de son carnet, de son journal intime, et fouiller dans les petits secrets d'Edouard, ce qui va lui permettre, du même coup, de s'insinuer dans la vie privée de celui-ci.
On en revient, c'est le nom de Profit en Dieu qui me permettait une transition dont je fais mon deuil. Deuil et Dieu étant d'ailleurs presque anagramme. Dans les nourritures terrestres, Pierre Masson, on a le sentiment, vous parliez tout à l'heure d'un désir qui ne se satisfait d'aucun objet. Plus exactement que chaque objet provisoire ne comble donc que provisoirement. L'intuition d'un désir qui n'est que provisoirement comblé par les objets qu'il croise est une intuition proprement biblique. La nature même d'un désir qui ne se satisfait pas des objets qu'on lui propose pour étancher sa soif, ce désir-là est biblique. Et en même temps, l'effet de ce désir, c'est le papillonnage. De sorte qu'on a dans les nourritures terrestres, me semble-t-il, à la fois une influence évidente des textes bibliques, en particulier le Cantique des Cantiques, mais pas seulement. Il y a une influence explicite des textes bibliques, jusqu'au prénom Nathanaël, mais qui débouche sur un texte qui prend le contre-pied de la morale chrétienne. En partant d'une même définition du désir, Gide prend le contre-pied de la morale chrétienne.
Oui, absolument. C'est vrai que ce désir insatisfait devrait normalement mener à un autre désir, celui d'une source qui ne tarit jamais, de Dieu lui-même. Mais dans les nourritures, et à partir des nourritures terrestres, apparaît cette idée quelque part qu'au fond, d'une certaine manière, chaque être peut être un petit peu Dieu lui-même pour le reste de la création. C'est à lui qu'il appartient de donner son prix au monde qui l'entoure. Et du même coup, il est confronté à une espèce de vertige qui peut avoir son danger, et Gide en est conscient aussi, puisqu'effectivement, il peut à ce moment-là penser qu'il n'y a plus de limite à son être. Et c'est ce qui fait que, puisqu'on a parlé tout à l'heure des alternances gidiennes, aux nourritures terrestres où il est célèbre, par exemple, la formule « assumer le plus possible d'humanité », voilà la bonne formule, bon, « s'ouvrir au monde », va correspondre presque chronologiquement l'histoire du roi Saül, qui, lui, se trouve complètement dépossédé par son abandon au désir, que Gide imagine, enfin, c'est une pièce de théâtre, chaque désir de Saül est représenté par un petit diablotin vêtu de noir qui vient danser la sarabande autour de lui. Et à la fin, Saül est complètement dépossédé par tous ses désirs multiples et il finit effectivement par en perdre la couronne. On sait que c'est David qui prendra la suite. Il y a toujours cette peur d'aller jusqu'à un stade de vaporisation du moi. Ça, la formule n'est pas de Gide, elle est de Baudelaire, mais justement Gide l'admire beaucoup, cette formule. Et il s'agit toujours à la fois de se rendre disponible, mais de ne pas se perdre.
Se rendre disponible sans se perdre, voilà qui peut-être explique, et d'ailleurs c'est ce dont on va parler après avoir entendu le texte que Cannes Brissier va nous lire maintenant, se rendre disponible sans se perdre, voilà peut-être qui explique le fait que dans les nourritures terrestres, tout le trajet, tout le parcours de Nathanaël est inscrit sous la juridiction de l'instant. Et on va voir précisément l'un des textes où alors là, pour le coup, la Bible est présente partout, omniprésente, omnipuissante presque. L'idée donc que les nourritures terrestres sont inscrites sous la loi de l'instant. Écoutez.
Ne désire jamais, Nathanaël, regoûter les eaux du passé. Nathanaël, ne cherche pas, dans l'avenir, à retrouver jamais le passé. Saisis de chaque instant la nouveauté irressemblable. Et ne prépare pas tes joies, ou sache qu'en son lieu préparé, te surprendra une joie autre. Que n'as-tu donc compris que tout bonheur est de rencontre et se présente à toi dans chaque instant comme un mendiant sur ta route? Malheur à toi, si tu dis que ton bonheur est mort parce que tu n'avais pas rêvé pareil à cela ton bonheur, et que tu ne l'admets que conforme à tes principes et à tes vœux. Le rêve de demain est une joie, mais la joie de demain en est une autre, et rien, heureusement, ne ressemble au rêve qu'on s'en était fait, car c'est différemment que vaut chaque chose. Je n'aime pas que vous me disiez « Viens, je t'ai préparé telle joie. » Je n'aime plus que les joies de rencontre et celles que ma voix fait jaillir du rocher. Elles couleront ainsi, pour nous, neuves et fortes, comme les vins nouveaux abondent du pressoir. Je n'aime pas que ma joie soit parée, ni que la sulamite ait passé par des salles. Pour l'embrasser, je n'ai pas essuyé de ma bouche les taches que les grappes avaient laissées. Après les baisers, j'ai bu du vin doux sans avoir rafraîchi ma bouche, et j'ai mangé du miel de ruche avec sa cire. Nathanaël, n'apprête aucune de tes joies. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight.
Pierre Masson est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mercredi pour nous parler de Gide et de ses nourritures terrestres dans une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent au bonheur. My love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now. Just like a willow. Alors la veille c'est de l'histoire ancienne, hein, le lendemain est inconnu, mais le présent est un cadeau, comme son nom l'indique, soit l'ami du présent qui passe. Le futur et le passé te seront donnés par surcroît. On est en plein dans l'évangile, qui plus est dans le Cantique des Cantiques d'ailleurs, avec la référence à un personnage du Cantique des Cantiques, la Sulamite. Oui. Pierre Masson, faut-il faire un lien dans les nourritures terrestres entre le fait qu'il est essentiel pour le narrateur de constater que le point de départ de toute vérité est d'abord sensible. Il dit toute sensation est d'une présence infinie. Il s'agit donc d'être dans la présence par la sensation, et également cette juridiction de l'instant, c'est-à-dire du présent, qu'il faut entendre aux deux sens du terme, saisi de chaque instant la nouveauté, seul le présent compte et par lui seul passe la voie du bonheur. Ne désire jamais, on l'a entendu, Nathanaël, regoûter les eaux du passé. Quel lien faut-il faire entre la sensation, c'est-à-dire la présence, et le présent, c'est-à-dire l'instant?
Eh bien, peut-être mêler les deux dans... Bon, je ne sais pas si Gide aurait été d'accord. Un peu ce que les Grecs appellent le kairos, si vous voulez, c'est-à-dire cette espèce d'instant privilégié, cette espèce de mise en parenthèse où à la fois le temps est suspendu et où une sorte de temps infini se semble tout d'un coup perceptible. Je pourrais vous répondre par une citation bien postérieure aux nourritures terrestres, mais qui me semble en rapport. C'est en 1923, Gide dit ceci, c'est dans son journal. « Ce qui me retient de croire à la vie éternelle, c'est cette satisfaction quasi parfaite que je goûte dans l'effort même et dans la réalisation immédiate du bonheur et de l'harmonie. »
Donc, il oppose l'éternité à la vie éternelle, au fond.
Oui, voilà.
L'éternité de l'instant, l'éternité finie.
La vie éternelle, au fond... J'ai l'impression que Gide n'y a jamais vraiment cru. Même à l'époque des cahiers d'André Walter, quand il évoque l'au-delà, bon, il parle un peu de l'apocalypse. Mais au fond, je crois que c'est l'idée de l'autre vie, d'une résurrection. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment adhéré. Et par la suite, c'est vrai qu'il place... dans l'instant hic et nunc, la recherche de ce sentiment d'éternité. Il va même le faire, par exemple, de façon très claire, en 1916, quand il relit l'Évangile au cours d'une crise mystique assez forte. Bon, tout d'un coup, il dit qu'il a comme un éblouissement en comprenant que l'éternité promise par le Christ, c'est maintenant qu'elle est à vivre.
Donc c'est le sentiment, l'expérience de l'éternité. On trouve ça chez Zarathoustra.
dans Ainsi parlait Zarathoustra. Oui. Il y a une référence au Cantique des Cantiques, mais après tout, Ainsi parlait Zarathoustra est également un texte biblique, d'une
tout
certaine manière.
Oui.
Quoique son auteur ait pu s'en défendre de temps en temps, c'est aussi un texte biblique. Et il y a des passages, alors je le cite de mémoire, où il dit « Car je t'aime, ô éternité ». Et on comprend bien que pour Nietzsche, il ne s'agit pas de la perpétuation indéfinie de la durée ou de la résurrection des corps. L'éternité, c'est l'éternité dans l'instant. C'est l'expérience de l'éternité, ce qui bien souvent est un oxymore pour un lecteur abusivement conceptuel. En revanche, quand on lit les nourritures terrestres, on a le sentiment que cette expérience, il la fait constamment.
Oui, en tout cas, à travers l'écriture, dans l'existence même, c'est plus difficile à dire. Je pense que c'est une recherche qu'il s'oblige à faire en permanence. Une autre citation, par exemple, c'est en 1906. « J'ai besoin de réapprendre méthodiquement à être heureux. C'est une gymnastique comme celle des haltères. On y parvient. » Donc il faut effectivement à la fois s'abandonner
comme
aux choses...
Comme celle des haltères, il l'écrit en un mot ou en deux mots?
En deux.
En deux, d'accord.
Oui. Et donc c'est une... L'abandon se travaille. L'éternité s'organise. C'est toujours... C'est encore une des contradictions gidiennes.
Il était là, contre moi. Je sentais au battement de son cœur que c'était une créature vivante et la chaleur de son petit corps me brûlait. Il dormait contre mon épaule, je l'entendais respirer. J'étais gêné par la tiédeur de son haleine, mais je ne bougeais point, de peur de l'éveiller. Sa tête, délicate, ballottait au grand chaos de la voiture où nous étions horriblement entassés. Les autres aussi dormaient encore, épuisant un reste de nuit. Certes, oui, j'ai connu l'amour, l'amour encore et beaucoup d'autres, mais de cette tendresse d'alors, est-ce que je ne pourrais rien dire? Certes, oui, j'ai connu l'amour.
Pierre Masson, quel est le dieu de Gide? Il dit « Dieu n'est pas dans le particulier, il est partout et c'est là qu'il faut le chercher. Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout. Chaque créature indique Dieu, aucune ne le révèle. Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu. » Un lecteur de bonne foi pourrait légitimement, enfin de bonne foi, je l'écris en deux mots là aussi d'ailleurs, pourrait légitimement s'y perdre.
Gide reconnaîtra plus tard s'y être un peu perdu lui-même. Je veux dire que là encore, si je fais un saut aux nouvelles nourritures...
Rappelons que les nouvelles nourritures, c'est quoi? C'est 35, hein?
35,
ah oui,
oui,
c'est donc 38 ans plus tard.
Voilà, hein. Oui. Gide va écrire qu'il s'est servi du mot « Dieu » comme un dépotoir pour toutes sortes d'aspirations, de concepts.
Il dit « dépotoir »?
Dépotoir, oui, oui, oui. Le mot étant dit entre guillemets.
Bon.
c'est un peu dur. Mais bon, je ne pense pas qu'il aurait souscrit à cette idée au moment des nourritures terrestres en 97.
C'est pas le sentiment qu'on a quand on le lit, hein. Allez-y.
Non, c'est-à-dire que Dieu reste pour lui une exigence. Jusqu'au bout, il a le sentiment que Dieu est une notion essentielle, mais par exemple, quitte à pouvoir écrire que Dieu dépend des hommes, qu'il dépend des hommes de faire advenir Dieu. Donc c'est vraiment la quête d'un absolu, qu'on le place en soi, dans le monde ou ailleurs, mais qu'il considère comme malgré tout indispensable à, non pas au prix de la vie, mais plutôt à ce qui permettra à chaque homme de chercher, encore une fois, à se dépasser. Là, je crois que c'est quelque chose qui n'a jamais quitté de son enfance, c'est l'idée que chacun de nous doit donner de lui le meilleur. Il y a une espèce de... Alors, il n'y a pas forcément de juge pour nous dire à la fin de la vie qu'on a ou non rempli la mission, mais ça reste au fond son réflexe. Et donc, Dieu, c'est ça, je crois.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée d'un dépouillement qui ne serait pas une façon de se défaire de quelque chose, mais au contraire une façon de s'enrichir ? Au fond, un dépouillement qui serait la source vive de l'Évangile. L'idée que tout ce qui n'est pas donné est perdu, qu'on retrouve d'ailleurs dans les nouvelles nourritures. Hein. C'est-à-dire que peut-être que dans les nouvelles nourritures, Dieu devient un dépotoir, mais Gide conserve l'intuition biblique d'une générosité qui ne s'épuise pas dans l'acte de donner, Pierre Masson.
Oui, alors cette idée de don, on peut dire qu'elle a évolué à l'époque pour Gide. À l'époque des nourritures, il s'agit surtout d'une sorte de sentiment de... d'ouvrir de se dépouiller du vieil homme, de se débarrasser un petit peu de tout ce que la vieille morale lui avait imposé. Donc le don, c'est d'abord un peu le don de sa personne. Il fait don de sa personne au monde avec une sorte de sentiment extatique. Il faut peut-être préciser quand même que c'est lié, et ça je crois c'est très important, au fait qu'il avait quand même failli mourir, ou en tout cas il a eu le sentiment de risquer de mourir en mettant les pieds pratiquement en Algérie, avec un début de tuberculose, et que l'imminence ou la proximité de la mort reste pour lui l'aiguillon le plus fort pour ressentir le prix de l'existence. Et donc, cette vie, en quelque sorte, une fois affirmée, conquise, il en fait comme une sorte de trouvaille merveilleuse qu'il veut vérifier sans cesse en la confrontant, en l'abandonnant, en quelque sorte, à toutes les sensations de hasard. Ça, c'est le début de sa quête. Mais il est certain que, beaucoup plus tard, Gide va en quelque sorte se prendre de l'assurance, s'affirmer...
Comme si en vieillissant, il allait oublier qu'il avait failli mourir.
Oui, c'est ça. Et du coup, s'ouvrir plus facilement aux autres. Il y a, en caricaturant énormément, il y a trois étapes chez lui. Il y a la découverte du plus irremplaçable des êtres qu'il doit être. Ça, c'est les nourritures. Il y a ensuite le rapport à autrui à partir de 1917. Enfin, la réconciliation du corps et du cœur, et l'immense étourdissement de bonheur, ça c'est une citation que Marc Allégret lui apporte. Et puis c'est après le Congo, à partir de 1926, la découverte des autres, de l'humanité souffrante, et à ce moment-là, du bonheur des autres comme complément nécessaire à son bonheur.
Et on va entendre justement dans les nouvelles nourritures un texte exemplaire de ce que vous dites ici, hein, d'une générosité qui s'augmente ou d'un bonheur qui s'augmente, quand il augmente justement celui des autres, un bonheur qui accroît, qui croit, qui se développe du bonheur qu'il répand, justement.
Il y a sur terre de telles immensités de misère, de détresse, de gêne et d'horreur, que l'homme heureux n'y peut songer sans prendre honte de son bonheur. Et pourtant, ne peut rien pour le bonheur d'autrui celui qui ne sait être heureux lui-même. Je sens en moi l'impérieuse obligation d'être heureux, mais tout bonheur me paraît haïssable qui ne s'obtient qu'aux dépens d'autrui et par des possessions dont on le prive. Un pas de plus et nous abordons la tragique question sociale. Tous les arguments de ma raison ne me retiendront pas sur la pente du communisme. Et ce qui me paraît une erreur, c'est d'exiger de celui qui possède la distribution de ses biens. Mais quelle chimère que d'attendre de celui qui possède un renoncement volontaire à des biens auxquels son âme reste attachée. Pour moi, j'ai pris en aversion toute possession exclusive. C'est de dons qu'est fait mon bonheur, et la mort ne me retirera des mains pas grand-chose. Ce dont elle me privera le plus, c'est des biens épars, naturels, échappant à la prise et communs à tous. D'eux surtout, je me suis saoulée. Quant au reste, je préfère le repas d'auberge à la table la mieux servie, le jardin public au plus beau parc enclos de murs, le livre que je ne crains pas d'emmener en promenade à l'édition la plus rare. Et si je devais être seule à pouvoir contempler une œuvre d'art, plus elle serait belle et plus l'emporterait sur la joie ma tristesse. Mon bonheur est d'augmenter celui des autres. Got a hold on me.
Pierre Masson est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance aujourd'hui. Pierre Masson, qui l'on doit l'édition de la Pléiade, des œuvres de Gide, la nouvelle édition dans la Pléiade des œuvres de Gide, parue l'an dernier. Et c'est dans le cadre d'une semaine sur le bonheur que nous parlons aujourd'hui des nourritures terrestres et maintenant des nouvelles nourritures. On va rester un instant, Pierre Masson, hein, sur ce paradoxe d'un bonheur qui s'augmente de celui des autres. Comme chez Kropotkine, d'ailleurs, la liberté commence là où commence celle des autres. On va voir un peu ce qu'il signifie. Avant cela, juste une chose, puisqu'il y a une référence à la pente du communisme, il faut dire à ceux de nos auditeurs qui l'ignorent quels furent les rapports d'André Gide avec le communisme et le Parti communiste, hein, Pierre Masson.
Alors, ça s'est fait très progressivement, c'est-à-dire que, revenu du voyage au Congo, Gide a commencé simplement...
Donnez les dates.
Oui,
pour en faire un peu
voyage
près
au Congo, c'est 25-26. Et donc, à son retour, il entreprend une campagne de presse pour protester contre les comportements de ce qu'on appelle les grandes compagnies concessionnaires à l'égard des populations noires utilisées comme main-d'œuvre, à la limite comme bétail. Et cette polémique va durer assez longtemps, plus d'une année, elle va avoir des débouchés même parlementaires, et va rapprocher Gide de certaines amitiés politiques, comme Léon Blum, par exemple, puisque c'est dans Le Populaire de Blum que Gide va publier une série d'articles. Et à partir de là, il y a une sorte, on peut dire, d'engrenage, bon, c'est tout le contexte historique de la France de cette époque, qui va faire que Gide va, par ses relations personnelles, des intellectuels comme Bernard Gruithuysen, par exemple, Pierre Herbart, Alix Guillien, etc., et puis aussi par sa propre réflexion, bon, il va lire Marx, tant bien que mal, il reconnaît lui-même que ça n'est pas absolument son point fort.
C'est moins agréable à lire que les nourritures terrestres.
Voilà.
Disons moins facile, en tout cas.
Moins facile, oui. Il va progressivement se rapprocher d'un mouvement. D'ailleurs, il n'est pas le seul cas. C'est ce qu'on appelle les compagnons de route. Il y a Romain Rolland, il y aura Malraux. Enfin, ceci par le biais de la lutte contre le fascisme. Il y a des associations d'intellectuels contre le fascisme. Et Gide va se retrouver présider comme cela certaines de ces assemblées, à la tribune, au côté de Malraux, d'Aragon.
C'était le comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
Voilà, oui. Il y avait l'AER aussi, l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Tout ça fait une espèce de vie qui le prend de plus en plus, qui fait que d'ailleurs il écrit de moins en moins.
Jusqu'à son voyage en URSS.
Oui, et qui fait, il faut que je précise tout de même, il n'adhère pas au Parti communiste. Il devient un sympathisant, il écrit dans son journal qu'il donnerait volontiers sa vie pour la réussite de l'URSS, il l'écrit en toutes lettres, ça paraît dans la NRF en 34, je crois, ça fait grand bruit, ou 32 même. On le voit manifester le poing levé aux côtés de Maurice Thorez, par exemple. Enfin, donc il y a vraiment un engagement assez fort, qui fait que d'ailleurs beaucoup de jeunes gens attirés par le communisme viennent à lui demandent conseil. Bon, et tout cela va culminer, on peut dire, avec ce fameux voyage de 1936 où il est invité à visiter l'URSS pendant plusieurs semaines en compagnie de quelques amis. Le voyage organisé en partie par Aragon, et puis il est avec son ami Jeff Last qui parle russe, qui peut lui servir un peu d'intermédiaire. Et là, bien sûr, on le sait, ça va être la déception. Déception due, semble-t-il, essentiellement par la découverte que ça n'est pas... non, le paradis ne l'espérait pas, mais que ça n'est pas la terre de liberté qu'il espérait, surtout. Gide, d'abord, je crois, est essentiellement un libertaire. Déjà à l'époque, d'ailleurs, il est plus proche de Trotsky que de Staline.
Mais qu'est-ce qu'un libertaire avait à faire dans un parti aussi conservateur que le Parti communiste, Pierre Masson?
Ben, c'est d'abord, justement, il n'est pas entré au parti. Il y a même une phrase de lui, c'est avant son voyage en URSS, où il écrit « On croit prendre parti et c'est le parti qui vous prend ».
Donc, c'est une phrase de libertaire, ça.
Oui. Si, il était bien conscient qu'il y avait des dangers. Et dans les différents discours qu'il a pu prononcer, même en URSS, devant les jeunesses communistes, eh bien, il réitère une invitation à préserver sa liberté de pensée, sa liberté critique. L'esprit critique chez Gide, c'est vraiment l'élément vital. Donc, face au système, on va dire, stalinien, là, il a assez vite... compris certaines des limites du système, et donc à son retour, écrit « Retour du RSS », puis retouche, il a persisté et signé, à mon retour du RSS, qui fait que ça a été la rupture totale et définitive, et qu'il va devenir du coup un ennemi des communistes qui essaieront même de le lui faire payer à la libération.
Alors pour revenir un instant sur le texte que Anne Brissy vient de lire, hein, les nouvelles nourritures, l'extrait des nouvelles nourritures, et parler de cette générosité, puisqu'on arrive presque au terme de cette conversation avec vous, Pierre Masson, juste pour revenir là-dessus, il y a une figure, d'ailleurs dont le parcours ressemble un peu à celui de Gide, c'est la figure de Camus, qui lui-même a été au Parti communiste avant d'en partir. Et Camus, comme Gide, explore un paradoxe qui est la gêne, l'horreur que l'homme heureux peut éprouver devant son propre bonheur, la honte finalement de l'homme heureux, la culpabilité de celui qui est heureux, alors que, car il est heureux sans ignorer le malheur des autres. Et il dit ceci, hein, je sens en moi, ça c'est Gide qui parle, l'impérieuse obligation d'être heureux. On retrouve cette idée-là chez Camus, le Camus de la peste, mais le Camus de Noce également, c'est-à-dire le paradoxe d'un homme qui essaie de penser son propre bonheur parallèlement à la souffrance des autres, mais un bonheur qui ne serait pourtant pas un égoïsme.
Oui, vous avez raison. Gide a vécu sur 30 ou 40 ans une expérience que Camus a vécue en beaucoup plus condensée, c'est-à-dire à la fois cette exigence d'un bonheur personnel et en même temps cette lucidité sur le malheur des autres dont il ne peut pas se désolidariser. Camus a vécu ça beaucoup plus douloureusement parce qu'on lui a renvoyé à la figure comme une espèce d'anomalie. Hein. Il revendique le droit d'être heureux. Gide, lui, a pris le plus le temps d'affirmer d'abord ce devoir d'être heureux. Gide d'ailleurs se référait davantage à la figure de Goethe. C'est de là qu'il part, et c'est même là qu'il aboutit, l'idée que, au fond, une des façons en tout cas de répandre le bonheur autour de soi, c'est déjà de se montrer soi-même heureux, d'être une sorte d'exemple de bonheur qui peut par là même procurer aux autres, non pas le bonheur, mais l'envie de faire de même. C'est comme ça que son thèse d'ailleurs se conclut, par l'idée que il a rendu, grâce à lui, les hommes seront désormais meilleurs, plus heureux et plus libres. Je fais mon œuvre, j'ai vécu. Bon, je ne sais pas si Gide s'est identifié à Thésée, mais en tout cas, il y a un peu cette idée. Notre bonheur dépend de celui des autres, mais il peut aussi y contribuer.
Merveille pour finir cette émission à votre compagnie. Kamakawa, Over the Rainbow, What a Wonderful World, un mélange des deux et pourquoi pas. Pierre Masson, je rappelle qu'on vous doit, c'est sous votre direction, qu'existent les deux volumes de la Pléiade de Gide, romans et récits, œuvres lyriques et dramatiques. On trouve tout à peu près, hein, la symphonie pastorale, les faux monnayeurs, le journal des faux monnayeurs, le Prométhée mal enchaîné, Philoctète, le roi Candaule dont vous avez parlé, et ainsi de suite. Donc deux volumes dans la collection, la belle collection de la Pléiade, parue l'an dernier. Merveilleuse, 10h50, on retrouve avec joie et bonheur le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
On parle de cinéma aujourd'hui.
Oui, on passe des nourritures terrestres à la fille du désert, puisque ce soir aura lieu une nouvelle séance des écrans philosophiques. Ces projections de films organisées par le Collège international de philosophie et qui sont suivies d'une réflexion sur le film, réflexion menée par un philosophe. Cette fois-ci, le film en question, c'est un western, La fille du désert, sorti en 1949 et réalisé par Raoul Walsh. Et le philosophe qui viendra en parler après la projection du film, c'est Éric Méchoulan, qui vient nous donner un avant-goût du film ce matin. Bonjour Éric Méchoulan.
Bonjour.
Comme tous les westerns, comme la plupart des westerns, La fille du désert pose la question de l'identité. L'identité à plusieurs niveaux. L'identité des États-Unis, tout d'abord, qui cherche à se construire, à se définir en tant que pays, indépendant de la tutelle britannique, et en tant que territoire. Et la notion de territoire est très importante, vous allez nous dire pourquoi. Donc territoire dont les limites restent à définir. Mais la question de l'identité est également présente à l'échelle individuelle. Dans la personne du personnage principal, en fait, qui cherche à échapper à son passé, à se construire à neuf. Et donc ces deux problématiques liées à l'identité, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle du pays, traversent tout le film, Éric Méchoulan.
Oui, absolument. On pourrait même y ajouter une dimension cosmique, je crois, qui est extrêmement importante. En fait, le titre, La fille du désert, ne rend pas véritablement justice au film. Le titre américain, c'était Colorado Territory, donc le territoire du Colorado. Et en ce sens, on voit tout de suite, en effet, qu'il est question d'identité, avec le nom du Colorado lui-même, et le fait qu'il s'agisse d'un territoire à la fois... Ce caractère naturel, évidemment, du paysage américain très, très particulier, surtout dans ces hautes montagnes, ce haut plateau en fait, du Colorado, très austère, très aride. Donc pas un désert de sable, mais un désert montagneux, au contraire. Et aussi un côté institutionnel, un territoire aux États-Unis, c'est le temps d'avant d'être constitué comme État, de faire véritablement... partie de la Confédération. Donc on a un enjeu institutionnel qui est tout à fait important. Donc en ce sens, le territoire, c'est une promesse, on peut dire. Et c'est pourquoi la question
du temps...
Une promesse
et une quête aussi.
Oui, une quête, ouais. Tout à fait. Le fait même d'être promis à devenir peut-être un État, à avoir cette identité américaine, est extrêmement important. Mais c'est aussi le lieu de quête des personnages. Donc c'est aussi une quête de chacun, individuellement, comme vous le disiez.
C'est ça. Et donc la notion même de territoire cristallise en fait deux notions qui sont extrêmement importantes dans le film, à la fois l'espace, le territoire comme espace, et le temps.
Absolument. C'est parce que le territoire n'est pas simplement cette espèce de lieu avec des frontières, mais parce qu'il est le réservoir à la fois d'un passé et surtout d'un futur, que du coup, le territoire est peut-être beaucoup plus une affaire de temps qu'une affaire d'espace, contrairement à ce qu'on pourrait se dire d'habitude. Et c'est pourquoi les héros qui passent par ce territoire, sont tous en train de vouloir reconstruire quelque chose de nouveau, de sortir, d'échapper à eux-mêmes. L'histoire est assez banale, un hors-la-loi qui s'évade de sa prison et qui doit monter un autre coup, une attaque de
train. Oui, une histoire de western traditionnelle.
Une danseuse dont on peut supposer qu'elle est plutôt une prostituée, évidemment. C'est la manière d'atténuer la chose dans l'univers américain du cinéma des années 40-50. Donc ces deux individus qui voudraient oublier leur passé et créer une autre vie. Mais c'est vrai aussi du colon, en fait. C'est vraiment l'image même du colon. Et il y a un autre personnage, un père et sa fille dans une diligence qui viennent. Et le personnage a ceci de caractéristique, il dit explicitement cela. Nous avons maintenant un nouveau monde et nous allons bâtir une nouvelle vie. Et ce qui est fascinant, c'est que cinématographiquement, il dit ça... Face à la caméra, il regarde la caméra, ce qu'on ne fait jamais évidemment d'habitude dans ce genre de cinéma-là. Et c'est vraiment le message qui est en train de passer. Comment est-ce qu'on construit une autre vie ? Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour construire une autre vie qui ne soit pas liée à son passé. Comment on fait pour se délier de son passé ? Et c'est pour ça que tout ce film est en fait hanté par des fantômes.
Prennent la forme, est-ce que je crois, des Indiens qui sont présents dans le film et qui sont comme le spectre du passé qui est dans le présent et dont on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi faire finalement.
Il y a en effet une présence tout à fait inattendue de ce point de vue-là des Indiens qui ont très peu d'action directe, mais en fait qui ont une présence extrêmement forte à plein de niveaux. Le héros doit se cacher dans une... une cité qui est une cité fantôme, une cité en ruine qui a été complètement désertée. Et cette cité s'appelle Todos Santos, donc la Toussaint. Et c'est donc le lieu des morts, évidemment. Et ce lieu des morts est proche d'un canyon de la mort. Et le héros va se réfugier finalement dans une cité troglodyte indienne abandonnée, où il n'y a plus que des esprits ou des os et des vautours. Et cette cité s'appelle la cité de la lune, qui s'oppose en quelque sorte au ranch du soleil où se trouvent le père et la fille dont je parlais tout à l'heure dans la diligence.
On retrouve l'importance du cosmos ici.
Donc le cosmos est là, exactement. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment un film à la fois sur les individus, bien sûr, en quête d'eux-mêmes, comment se construire soi-même dans son identité. Un film sur la construction des États-Unis, à la fois des territoires et des États, et de l'imaginaire américain, du rêve américain du colon. Et un film sur le cosmos grâce aux Indiens. Et Walsh accorde une place extraordinaire à ces Indiens, mais presque à la fois sous la forme des spectres. Ce sont ces fantômes qui sont toujours là, qu'on ne voit presque jamais. Mais en même temps, ce sont eux qui finalement agissent parce que, sous la forme d'aide au shérif, ce sont eux qui vont trouver la bonne ruse pour finalement capturer le héros et le tuer de façon à ce que l'ensemble soit ramassé en quelque sorte dans cette figure finale où on a un plan fixe. De la même manière que cette austérité du cinéma walshien, il y a cette austérité des montagnes elles-mêmes où le héros finit par être tué. Le territoire, en ce sens, le territoire est à la nature, en quelque sorte, ce que les constellations sont aux étoiles, une manière de lire et non pas d'avoir la matérialité.
Le territoire est à la nature, ce que les constellations sont aux étoiles. C'est très beau, Éric Méchoula. En tout cas, ça donne envie d'aller vous écouter après la projection du film. C'est donc ce soir à 20h30 au cinéma Le Méliès à Montreuil. Et on trouve toutes les informations, évidemment, en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.
Et maintenant, Adèle, vous allez nous parler d'un truc formidable.
Ouais, dans la série des livres de philosophie pour enfants, je vous conseille cette collection qui sortira début avril et qui s'appelle Les Petits Platons, qui propose 4 livres pour l'instant sur 4 philosophes différents, Leibniz, Socrate, Descartes et Kant. Alors, ce qui rend ces livres intéressants, c'est qu'ils sont écrits sur un mode narratif, comme un roman ou comme un conte, qui met en situation le philosophe et qui raconte, par le biais de péripéties et de retournements, les aventures de ce philosophe. Alors, par exemple, dans un petit livre qui s'appelle La folle journée du professeur Kant, on voit le vieux Kant effectuer sa mythique promenade quotidienne et rencontrer, chemin faisant, son camarade Jean-Jacques. Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau, évidemment. Jean-Jacques en train de faire des galipettes dans un jardin et on voit Kant hésiter à l'interrompre pour lui montrer la lettre d'amour de la comtesse Kaeserlin qu'il vient de recevoir. Puis il se ravise, se disant qu'après tout, Rousseau, ce Newton de la morale qui a arrêté la philosophie pour se consacrer à la botanique, ne doit pas entendre grand-chose à l'amour. Voilà, toutes ces descriptions nous familiarisent au bout du compte avec le philosophe, en tant que personnage, mais aussi en tant que penseur, car c'est tout l'intérêt de ces livres. Non seulement on les lit comme n'importe quelle autre histoire qu'on raconte à ses enfants, mais en plus, au fil des aventures, on y apprend réellement quelque chose sur la pensée même du philosophe. La collection s'appelle Les Petits Platons, c'est le philosophe Jean-Paul Mongin qui est à l'origine de ces livres, et c'est une initiative qui est bien vue, bien pensée, avec humour et finesse, et on peut les commander dès aujourd'hui sur Internet.
Et je confirme, pour l'avoir testé sur un jeune cobaye de 8-9 ans, qu'effectivement ces livres sont remarquables et qu'en plus ils préservent le texte original, c'est vraiment une collection formidable. Alors on est très en retard, tant pis. Merci à tous. Donc, les nourritures terrestres, les nouvelles nourritures, les westerns, la philosophie pour enfants, c'était le bonheur du jour ou de l'instant. Un bonheur dont, s'il a été le vôtre, chers auditeurs, eh bien tout simplement vous pouvez le prolonger en nous retrouvant sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent téléchargements et bibliographies. Jetez-vous aussi sur les nourritures terrestres. C'est vraiment un texte magnifique. Un désert singulier, dirait Camus, qui n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. On se retrouve demain de 10h à 11h pour prolonger cette semaine sur le bonheur en compagnie de Robert Misrahi.